Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, la sono arrive. Cette nuit, j'avais un petit cauchemar. L'église était là, mais moi, je n'étais pas là. Et voilà, j'arrivais en retard. Tout le monde m'attendait, mais heureusement, ce n'est pas le cas. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois ici. Et donc, on parle d'une thématique depuis un moment. Donc, c'est la troisième prédication sur une série sur l'Apocalypse, qui est intitulé Jésus-Christ, Alpha et Oméga. Et Jésus qui est le centre de l'histoire du monde. Et nous allons voir aujourd'hui, on va progresser dans le livre d'Apocalypse. Et donc, pour ceux qui veulent avoir les diapos, vous pouvez me contacter plus tard ou déjà noter l'adresse mail. Comme ça, je vous envoie. La semaine dernière, j'ai fait les JAMS, donc le club biblique avec les enfants, et j'ai loupé la prédication. Et donc, je veux juste vous dire que si vous loupez une prédication, vous n'êtes pas présent, il y a toujours la possibilité d'aller aussi sur le site internet, aller sur ressources, messages audio, et après, vous allez trouver les prédications du passé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand travail qui fait l'équipe informatique, et ça vaut le coup d'y aller. Donc Agnès me disait que c'est ma femme, me disait que mon diapo n'était pas vraiment clair par rapport à ce cercle, ce fameux cercle. Donc je vais vous expliquer à nouveau, peut-être avec quelques exemples. Donc l'idée est que Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, la croix, est au centre de l'histoire du monde et qu'en fait on fait une grande boucle. Donc on commence avec la création du monde, le jugement par l'eau, donc Noé, Joseph, roi d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, entrer dans la terre promise, donc en Israël, les juges, un temps de juges, de rois, et après la diaspora, parce que le peuple juif n'avait plus de terre à elle-même. Donc si ça ne vous dit rien, il faut tout simplement aller et lire la Bible et se renseigner sur cette partie-là. Et c'est beaucoup de pages à lire, mais voilà, j'ai un peu résumé pour vous. Après, l'histoire du christianisme commence aussi par un temps de diaspora. Les chrétiens étaient persécutés au début. Après, ils vivaient plus ou moins harmonieux sous des rois différents. Et on a comparé le temps des juges avec aujourd'hui, où chacun fait un peu ce qui lui semble bien. Donc, une génération avec un grand bagage chrétien, mais qui perd ses racines. Donc, l'idée ou les parallèles que je vois, c'est l'entrée dans la terre promise pourrait ressembler à l'enlèvement. On va parler de ça. Les 10 plaies d'Égypte ressemblent énormément aux plaies qui sont décrites dans l'Apocalypse. Joseph, roi d'Égypte, Jésus, roi de la terre, donc le millénium. Le jugement par l'eau, le jugement par le feu, donc la destruction de la terre finalement. Et la création, aussi la création d'un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et donc c'est un peu la grande boucle que je vous décris. Et aujourd'hui, nous allons parler juste de cette partie-là. En rouge, on a déjà passé par juge. Aujourd'hui, c'est l'entrée dans la terre promise. Et on gratte un petit peu déjà au temps de l'Apocalypse, on va dire des 10 plaies d'Égypte, l'Antéchrist. Donc, l'Antéchrist et ses prédécesseurs. On parle peu de l'Antéchrist aujourd'hui parce que beaucoup de gens se sont plantés dans le passé. Ils ont dit que l'antéchrist est Obama, l'antéchrist c'est le pape, l'antéchrist c'est telle et telle personne. Et chaque fois, c'était faux. Mais ce n'était pas nécessairement faux que certains personnages, mais je vais vous décrire quelques-uns où je suis relativement sûr, sont des prédécesseurs de l'antéchrist. Et je trouve ça intéressant de parler de ces personnages-là parce qu'on ne connaît pas exactement l'antéchrist de l'avenir, parce que ça reste un personnage un peu flou, mais les gens du passé, on connaît. Et donc, on sait par rapport à, comme on dit en mathématiques, si on a plusieurs points, on peut extrapoler et dire, voilà, si c'était comme ça dans le passé, probablement ça sera comme ça dans l'avenir. On sait à peu près les caractéristiques qui nous attendent d'un antéchrist. Et donc, on a aussi certains attributs de l'antéchrist qui sont écrits dans la Bible. Donc, par exemple, en 1 Jean 2, 18, « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez déjà entendu. » Qu'un antéchrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists, donc des prédécesseurs. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Donc la venue de l'Antichrist signifie aussi que c'est vraiment le temps, l'heure dernière, ça veut dire un temps de jugement qui va arriver, la fin de la terre. En 2 Jean 1, 7, nous lisons qu'il est un trompeur, qu'il est un imposteur. 2 Thessaloniciens 2, 3, c'est l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire. C'est un peu ces caractéristiques qu'on voit dans la Bible. Et finalement, il ne faut pas s'attendre à un antéchrist avec des cornes, tout habillé en noir et méchant. C'est certainement quelqu'un avec une figure qui semble à un sauveur, à un Christ, au moins pour une grande partie de la population, mais qui n'est pas l'original. Donc c'est une copie de l'original, une copie diabolique, qui va au début apparaître comme quelqu'un de bien et plus tard montre sa vraie figure, comme quelqu'un qui porte un masque et qui l'enlève avec le temps. Le livre de Daniel nous montre la première fois dans la Bible, donc si on lit la Bible, voilà, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la première littérature dans la Bible, les premières citations de l'Antéchrist. Donc le roi Nebuchadnezzar à Babylone, il a eu des rêves et Daniel explique ses rêves. Donc en Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar rêve d'une statue qui a une tête en or, après un torse en argent, les hanches en bronze, et puis des jambes en fer et des pieds de fer et de mélange avec de l'argile. Donc quelque chose qui ne colle pas très bien ensemble. Une deuxième image qui est donnée aussi dans un rêve avec une interprétation, c'est que ce sont des différents types d'empires. Donc la tête qui correspond à Babylone, le torse au empire Médo-Perse, merci. Donc les hanches à l'empire grec, et puis les jambes au empire romain, et les pieds à quelque chose qui vient de l'empire romain, mais qui trouve ses origines dans l'empire romain, mais qui est un mélange. Donc ce n'est pas l'empire romain lui-même, mais une sorte de continuation avec une sorte de type de mélange. Dans un autre rêve, en Daniel 7, ces différents empires sont comparés avec des animaux, donc Babylone comme un lion, Médo-Perse comme un ours qui dévore, ici on a des côtes d'un animal dans la bouche, l'empire grec comme un léopard, donc très rapide, donc ça fait référence à Alexandre le Grand, l'empire romain a un monstre qui écrase tout. Et on sait que dans l'histoire, c'était vraiment l'Empire romain, était un monstre qui écrasait longtemps tous ses ennemis. Donc dès qu'il y avait une révolte, ils ont écrasé chaque révolte. Il suffit d'aller en Israël, à Masada, pour voir les efforts que l'Empire romain a fait pour écraser la moindre révolte. Donc vous pouvez regarder ça peut-être sur Internet, mais c'est vraiment énorme le travail qu'ils ont fait pour écraser 600 personnes. Ils ont travaillé pendant 2 ans pour faire un grand tas de terre, etc. Et dans le dernier empire, donc en fer et argile, c'est là où on voit les cornes qui sortent de l'empire romain, donc ça veut dire des successeurs, des rois qui résultent de cet empire-là. Et une de ces cornes-là, donc la petite corne, est appelée aussi l'antéchrist. Et pour ceux qui ne voient pas bien parce qu'ils sont loin, cette petite corne-là a une très grande bouche. Et ça veut dire c'est un roi qui blasphème Dieu. Mais ce qu'on sait aussi de cette histoire de Daniel, c'est à un moment donné, donc quand tous ces empires ont pris leur fin, il y a une sorte de pierre qui vient du ciel et qui détruira cette statue. Et c'est l'empire du Christ qui arrive et qui détruit tout qui était là avant. Ce qu'on peut retenir, c'est quand l'homme règne sans soumission à Dieu, des royaumes monstrueux résultent. Il n'y a pas des royaumes humains ou gentils, mais ça devient chaque fois des monstres. Et on va parler de quelques monstres dans l'histoire aujourd'hui. Une autre thématique que je vais aussi associer à l'Antéchrist, parce que la Bible l'associe aussi, c'est le sujet de l'enlèvement. Donc enlèvement veut dire on prend quelque chose et on l'enlève. On prend quelque chose et on l'enlève. Et évidemment aussi le jugement. Donc ces trois thématiques sont très liées, parce qu'elles se passeront dans un temps similaire. Si on va sur notre site de l'Église, on voit ici dans notre confession de foi, on croit à l'enlèvement, donc nous croyons à l'enlèvement de l'Église, corps de Christ composé de tous les croyants. Ce que ça signifie, je vais vous expliquer avec quelques passages bibliques. D'où vient cette thématique de l'enlèvement. Donc en Thessaloniciens 1, donc l'église des Thessaloniciens, c'est une église qui était visitée rapidement par l'apôtre Paul pendant 3 semaines. Et donc il écrit des lettres différentes, on va voir ça un peu plus tard. Et donc une des premières lettres, il dit, l'apôtre Paul, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de nous, de vous. Et comme vous, vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. Jésus qui nous délivre. Donc là, on parle probablement de l'enlèvement. Donc il nous délivre de la colère à venir. Et la colère à venir a aussi plusieurs d'autres mots comme jugement ou le jour du Seigneur. Et donc, des fois, ça peut être source d'une confusion. On peut se dire, qui nous délivre le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, si on regarde dans la Bible, c'est lié à un jugement. Donc, l'enlèvement et le jour du Seigneur, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que je l'ai marqué en bleu et rouge. Donc, en Apocalypse 2, 22, donc une autre source, donc ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, mais Jean avec une révélation du Christ. Voici. Donc, il parle de l'église de Thyatire, que nous avons vu la dernière fois pendant la prédication. Certaines choses, ce qui se sont passées dans cette église, surtout des pratiques sataniques. Et donc, il y avait une dame qui s'appelle, peut-être vraiment Jézabel, qui a séduit cette église-là vers des pratiques sataniques. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation. Et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Donc, Jésus, il permet pour ceux qui ne sont pas sanctifiés d'aller dans la grande tribulation. D'autres églises, il peut préserver de ce temps de jugement. Église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance au moins, je te garderai moi aussi, donc on pense par l'enlèvement, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour les éprouver, pour éprouver les habitants de la terre. Donc, 2 Thessaloniciens 2, donc là on était dans la première lettre, maintenant c'est la deuxième lettre. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, donc par enlèvement. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées. Comme si le jour du Seigneur, donc un temps de jugement, était déjà là. Évidemment, si on n'est pas enlevé de ce monde et le jour du jugement arrive, évidemment ça fait peur. Donc eux avaient peur, ils ont écrit à l'apôtre Paul et il a dit « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut apparemment l'apostasie, qui veut rien dire autrement que reniement public de sa foi chrétienne, soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire, donc l'antéchrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodigues mensongères et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Ce qu'il est important, ceux qui sont jugés, ce n'est pas ceux qui croient à la vérité, mais jugés sont ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Donc avec ces textes bibliques, on peut déjà dire que avant le jugement, avant le jour du Seigneur, il y aura une apostasie globale, donc un reniement de sa foi chrétienne, et que l'antéchrist va commencer à se révéler. Aussi, on sait qu'avant le jugement, il y aura une délivrance pour les croyants. Donc la question est-ce biblique? Parce que la Bible se reproduit. Des mêmes types, Dieu agit, change pas. Donc il est évident que Dieu agit toujours d'une même manière. Pas toujours de la même façon, mais toujours de la même manière. Et donc, on va voir certains exemples qui peuvent nous rassurer que cette image de l'enlèvement est correcte. Donc là, j'ai oublié le U. Dieu ne juge pas les injustes, mais les injustes. Donc si on pense à Noé, Noé était juste, donc il n'a pas subi le déluge. Il était enlevé par l'arche de Noé. Voilà qu'on connaisse tous des histoires pour les enfants. Lot et sa famille étaient enlevés de Sodome. Et Israël était marqué, le peuple hébreu était marqué, pour ne pas être touché par l'ange de la mort en Égypte. Donc quand l'ange de la mort est passé pour frapper les Égyptiens, eux n'étaient pas frappés. Et donc le jugement est pour ceux qui ne croient pas, mais pas pour ceux qui croient. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc pourquoi n'en savons-nous pas plus sur l'enlèvement? Pourquoi y a-t-il du débat? Et pour moi, c'est important de dire ça aussi, que si vous allez lancer dans cette littérature-là, ce n'est pas tout à fait évident. Vous allez entendre, je crois que c'est relativement sûr, bibliquement, qu'il y aura l'enlèvement, mais à quel point, là, il y a beaucoup de débats. Et c'est tout simplement pour une raison, c'est l'apôtre Paul, il a prêché à Thessalonique, donc c'est la source principale pour l'enlèvement, l'enlèvement. Et ce qu'il a prêché à Thessalonique, nous, on ne le sait pas. On n'avait pas des enregistrements à l'époque. Et après, cette église-là, elle avait des questions. Donc, elle a écrit une première lettre à l'apôtre Paul, qu'on ne connaît pas non plus. Lui, il a répondu. On connaît la première lettre, donc la première réponse. Après, ils avaient encore des questions. Donc, deuxième lettre de l'église et un deuxième retour, donc deuxième réponse. Donc, de ces cinq choses, on ne connaît que deux choses, les deux réponses de l'apôtre Paul. Et donc, il faut reconstruire qu'est-ce qu'il a vraiment enseigné. Et ça, évidemment, laisse quelques parties un peu floues. Mais heureusement, il a écrit parce que si on lit les lettres de l'apôtre Jean, on trouve souvent à la fin « J'aurais beaucoup à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. » Donc malheureusement, tout ça, ce qu'il voulait dire encore, l'apôtre Jean, est perdu parce qu'il n'a pas fait avec l'encre et la plume. Donc nous, on l'a plus. Donc merci Seigneur que l'apôtre Paul, au moins, il a écrit des réponses. Donc, j'ai écrit le scénario qui me semble le plus semblable. Évidemment, j'ai beaucoup creusé dans la littérature. Et la Bible semble à confirmer le scénario suivant. Mais comme je vous dis, si l'enlèvement sera exactement ici, ou là, ou là, ou là, là, il y a encore, il faut être prudent par rapport à ça. Donc, je vais vous expliquer cette image. Donc ici, on passe dans le temps. Donc ça, c'est le passé, ça, c'est l'avenir. Il y a un temps de 7 ans. Donc on trouve ça très précisément dans la Bible, dans ces passages ici. Les chrétiens, ceux qui croient en Christ, qui ont une relation vivante avec lui, seront enlevés. Donc Christ revient dans les nuages. Il nous sort de cette terre et on se rencontre dans les nuages. C'est écrit dans Thessaloniciens. Donc j'ai oublié ce passage-là. Donc les religieux et les autres, donc ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui font juste ça par les traditions, ils resteront sur cette terre et les juifs qui ne croient pas en Dieu non plus. Donc ils ne vont pas vivre un enlèvement. Et puis il y aura une période de 7 ans où il y aura 144 000 juifs qui seront marqués comme le peuple hébreu en Égypte, donc qui ne seront pas touchés par les plaies ou qui seront des prédicateurs. Donc il y a une bénédiction spéciale sur le peuple hébreu. Et l'Antéchrist commence à se révéler. Donc il montre son vrai visage. Il fait un contrat avec Israël. Et au milieu de ces 7 ans, il va s'autoproclamer comme Dieu. Et il va rompre son contrat avec Israël. Et après, l'Antéchrist fait ravage. Donc il va tuer énormément de gens. Il va être sans frein, donc personne ne va le freiner, c'est ce qui est décrit dans la Bible, il y aura beaucoup de morts, et une partie du peuple juif peut se réfugier dans le désert. Après 7 ans, il y aura la bataille d'Armageddon, Christ revient, et il frappe l'Antéchrist. Donc c'est à peu près, si on lit tous ces passages-là, plus Thessaloniciens, ce qu'on peut retenir. Donc, vous pouvez dire, est-ce que c'est vraiment 3 ans et demi, etc. Oui, il y a des passages dans le livre de Daniel, mais aussi Apocalypse 13, 5. Et lui, donc l'Antéchrist, fut donné une gueule, donc on a déjà vu ça avant, qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc 42 mois, si on prend la calculatrice et on divise par 12, on a les 3 ans et demi. Il ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Là, j'ai oublié aussi qu'il y aura des chrétiens morts qui vont aussi ressusciter. Donc là, et être enlevé, si on veut dire. Donc pas de souffrance pour les chrétiens, point d'interrogation. Donc si on est enlevé avant cette période-là, donc pourquoi est-ce que ça nous concerne? Donc ce qu'il faut retenir, c'est les souffrances que nous avons à craindre comme chrétiens ne viennent pas de Dieu. Matthieu 24 précise, je vais oublier le verset, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom et ce sera pour beaucoup une occasion de chute et se haïront les uns les autres. » Peut-être ça vous rappelle de la première prédication où les premiers chrétiens, ils sont ici commencés à dire « Voilà, lui est chrétien, lui on va le mettre à mort, etc. » Donc il peut avoir une période comme ça dans l'avenir où les chrétiens seront testés par ça. Donc, est-ce qu'on confesse encore Dieu si ça va vraiment à notre vie? Et donc, ce n'est pas un jugement divin, mais c'est en fait la persécution des gens autour de nous. Pourquoi une étude sur l'Antéchrist si nous ne le verrons pas? Ça, on peut aussi se poser comme question. Luc 21, 28 donne la réponse. Quand ces événements commencent à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Donc si on voit que certains signes s'accomplissent, on sait aussi que Christ va bientôt retourner et nous chercher. Donc l'Antéchrist et son fonctionnement. En Apocalypse 13, on voit, je vais peut-être dire ça à bord, la foi chrétienne, elle confesse un Père, Fils et Saint-Esprit, donc la Trinité Sainte. En Apocalypse 13, on voit aussi une trinité, mais ce n'est pas la trinité sainte, mais diabolique. Donc Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. Donc Satan, il veut toujours imiter ce qu'il fait Dieu, mais de façon diabolique. Donc le caractère de l'Antéchrist, un homme de pouvoir, souvent aussi pouvoir militaire, comme il est décrit dans la Bible. Il est rusé, il a une période de succès. Donc au début, il a beaucoup de succès. C'est un grand bâtisseur normalement, il fait des grandes œuvres. Il trompe vraiment tout le monde, mais dès le début jusqu'à la fin, même ses amis. Il est orgueilleux, il ne respecte pas les contrats, il est blasphémateur, il a un comportement bipolaire, donc il est gentil vers quelques-uns, il est très méchant vers les autres. Et ça, il vit naturellement. Et il a évidemment une profonde haine contre le peuple de Dieu. Et donc on va voir trois personnages de l'Antéchrist qui date même de l'Ancien Testament, juste à l'histoire, il y a 2000 ans. Donc Pharaon, Hérode le Grand et Néron. Pour me dire, mais Pharaon, c'était il y a très longtemps avant Christ, mais vous voyez que vous allez voir qu'il y a beaucoup de ces attributs qui correspondent à l'Antéchrist. Donc c'est des prédécesseurs. Et pour ça, hop, là on va un peu trop loin, je vais vous lire certaines choses sur le Pharaon. Et surtout par rapport à ce que je viens de lire. Donc, il a une haine contre le peuple hébreu, parce qu'il a peur du peuple hébreu. Donc, le peuple hébreu commence à devenir plus grand, il les compte, et il commence à avoir peur. Une peur qui n'est pas du tout logique, mais il est obsédé par cette peur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il oblige les juifs, ou le peuple hébreu, à faire le travail forcé, donc construire les briques. Et puis, il détermine un plan d'extermination des Juifs, donc le holocauste de l'Ancien Testament. Je vais vous le lire, c'est dans la Bible, « Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra. » Donc il veut éliminer le peuple juif, au moins la moitié, le garçon. Il a des grands projets de construction. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Donc, le peuple égyptien, il voyait, ah, c'est quelqu'un qui construit des choses, quelqu'un fait des choses bien, donc on le soutient. C'est quelqu'un qui, voilà, un homme fort. Chaque fois, il veut tromper Moïse avec des fausses promesses. Je vous laisserai partir, Exode 9, 28, quelques versets plus tard. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa point partir les Israélites. Donc il dit, ah, allez-y, et après, il change son avis. Et ça, elle fait tout le temps. Il se considère comme Dieu lui-même. Ça, on ne voit pas dans la Bible, mais on voit dans l'histoire. Donc, nous, on était, c'est une photo que je prise, on était en Égypte, et c'est une statue qui est immense. Les pharaons ne se prenaient pas comme des hommes normaux, mais comme des dieux. C'était des gens avec un pouvoir absolu. Donc, il exerce un grand deuil pour son propre fils, mais, comme je dis, il veut tuer les garçons hébreux. Donc, à nouveau, ce comportement bipolaire, méchant, gentil. Et finalement, il se tue dans la rage contre le peuple juif. Donc, il se noie dans la mer Rouge. Hérode le Grand, donc celui au milieu, il a peur, évidemment, que son pouvoir soit pris par quelqu'un d'autre. Donc, à nouveau, une peur qui n'est pas logique. Pour ça, il tue sa femme, son gendre, ses trois fils et 300 militaires. Qui rend très, très probable que l'histoire, que beaucoup de gens disent « Ah, c'est juste une fable avec à Bethléem qu'il a tué tous ces bébés-là », ça devient très, très probable si on lit ça. Donc, quelqu'un qui tue ses trois fils, il sera certainement capable de tuer son bébé. Hein. Tu veux là son pouvoir. Tous les grands bâtiments qu'on peut voir aujourd'hui en Israël datent de lui. Donc, on peut dire, par exemple, le temple, Césarée, Hérodion, Massada. Et c'est quelqu'un qui, on peut dire, a sauvé la religion juive parce qu'il a construit le temple. Donc, c'est quelqu'un de bien aussi, il a aidé pendant une famine en Judée, il a réduit les impôts, etc. Néron, il tue sa femme, sa mère et son demi-frère aussi, parce qu'il a peur évidemment que quelqu'un prenne son pouvoir. Ce qu'il est moins connu, il s'est construit une statue de 40 mètres hauteur. Donc, on parle peut-être ici 5 mètres, donc 8 fois la hauteur du plafond, pour se glorifier lui-même. Et ça, il avait dans son petit temple. Donc, il s'adorait lui-même et il faisait des Jeux olympiques et des compétitions de chant où lui seul a le droit de gagner. Donc, les autres, il a pris des gens un peu... Il ne chantait pas si mal, mais il a fait la compétition avec des gens qui étaient un peu vieillards, etc. Il libère Paul, mais puis il persécute les chrétiens. Donc, aussi quelqu'un gentil et méchant en même temps. Et maintenant, on va voir un personnage. Donc, ça, c'est de l'histoire il y a longtemps, mais on va voir un personnage plus récent. J'ai fait exprès de prendre quelques photos de ce personnage-là qui semble gentil, homme voilà, qui aime bien s'installer sur son canapé. Donc, on parle d'Adolf Hitler. Moi, comme Allemand, c'est un personnage qui m'a quand même un peu troublé, parce qu'on ne peut pas exterminer 6 millions de Juifs sans qu'il y ait un aspect spirituel dans tout cela. Donc je me suis interpellé, qu'est-ce que cette histoire-là, comment est-ce que ça s'arrange dans le plan de Dieu ? Et donc, Hitler, comme on voit, il pouvait être très gentil avec les enfants, hein, mais des enfants allemands, les enfants juifs, il voulait les exterminer. Donc, une profonde haine contre le peuple juif. Je peux te lire ça d'abord. Presque toutes les femmes qu'il rencontrait, donc il n'avait pas nécessairement des relations sexuelles avec elles, mais elles se sont suicidées. Il y avait des projets de s'autoproclamer comme Christ II, s'il avait la victoire finale. Les gens ont fait des prières, adressé des prières à Hitler, déjà. Donc, il a changé des prières, comme notre Père, en notre Führer. Voilà. Donc, là, il est devenu un messie, il se considérait comme le messie, le sauveur du peuple allemand. Il utilise des outils modernes à l'époque comme la radio et le cinéma pour sa propagande. Qui, évidemment, aujourd'hui est aussi utilisé, pense à l'élection de Donald Trump, où Facebook, apparemment, a manipulé les élections. Il est brutal et aimant en même temps, ce qu'on voit ici. Il a plusieurs années de grands succès, parce qu'il fait travailler le peuple allemand, mais surtout aussi tous les juifs, tous les prisonniers. Et là, on voit bien la parallèle avec le pharaon. Hein. Les deux prennent ce peuple-là et ils font le travail forcé. Un mépris pour les Hébreux et les prisonniers, un mépris pour le peuple juif, donc très similaire. Comme Pharaon, il cherche à exterminer les Juifs par le travail forcé et par la mort. Moins connu, il veut aussi éliminer le christianisme. Il échange la vérité, donc la Bible, contre Mein Kampf. Il fait toujours des fausses promesses, mais à tout le monde, à des organisations, la Bible, autres pays, Stalin, etc. Et il trompe. Donc, c'est quelqu'un qui peut tellement proclamer le mensonge comme si c'était la vérité. Mais finalement, Stalingrad, donc l'armée nazie, se noie à Stalingrad. Pharaon, son armée se noie dans la mer Rouge. Donc, beaucoup de parallèles. Ce qui est aussi très intéressant, j'ai dit que l'Antéchrist vient de l'Empire romain. Hitler, il a cherché à imiter l'Empire romain. Il disait, l'histoire romaine bien comprise reste le meilleur enseignant. Ça, c'est César Auguste, ça, c'est Hitler. Ave César, salut à toi César. Ave Hitler, salut à toi Hitler. L'aigle avec SPQR, l'aigle avec le swastika. Donc on voit, il reprend le même type de symbolique. Donc 2000 ans plus tard, presque après César Auguste, l'Empire romain renaît de quelque sorte. L'Apocalypse 13, 7 dit « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosternant devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. » J'ai pris cette photo-là parce que c'est une photo en couleur des Allemands qui admiraient Hitler. Et je me suis dit, ça, c'est des personnages, ça pourrait être aujourd'hui. Hein. C'est des gens modernes, des gens qui avaient une culture, mais cela n'empêche pas de suivre un dictateur. Parce que nous, on croit des fois, ah, l'éducation, ça va empêcher ça. Mais pas du tout, hein. Parce que c'est dans le corps de l'homme de vouloir suivre quelqu'un. Et si cette personne va naître, ou va s'autoproclamer Dieu, les gens n'auront aucun problème malgré la logique de l'adorer. Donc, je me suis dit, quel est donc son rôle spirituel de Hitler? Et donc, il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il disait, nous sommes tous des petits Jean-Baptiste, moi j'attends le Christ. Ça, il a dit dans un contexte que lui ne voulait pas être nécessairement le leader du mouvement, il attendait le Christ. Et je me suis dit, si Satan aime bien copier des choses, on aurait pu poser la question à Hitler, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Je vais juste... Là, j'ai enlevé cette diapo. Mais en tout cas, il semble que Hitler, il est le Jean-Baptiste, mais façon diabolique. Il annonce la venue de quelqu'un d'autre, donc l'Antéchrist. Ce qui est aussi très intéressant, si on compare des choses, c'est que le peuple hébreu était esclave sous Pharaon, mais après, Dieu ouvre le chemin pour entrer dans la terre promise. Le peuple juif était esclave sous Hitler, Dieu ouvrait les portes pour la fondation d'Israël. Les esclaves ou le peuple hébreu va à nouveau être esclave sous l'Antéchrist, mais Dieu va ouvrir les portes pour la fondation du millénium du Christ. Donc il y a vraiment des parallèles aussi dans ça. Donc quels événements sont déjà accomplis ou proches de s'accomplir? Ça je vous ai dit, je crois, on est dans les derniers temps, il y aura des signes relativement clairs. Matthieu 24, 6, je sais, c'est beaucoup d'informations aujourd'hui. Vous allez entendre de parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Donc c'est quelque chose que Jésus a dit qui doit venir avant la venue de l'Antéchrist. Là, évidemment, pour ce texte-là, on peut se poser la question, est-ce que ça s'est déjà passé dans le passé ou est-ce que ça va encore venir? Ce n'est pas tout à fait clair. Donc, on va trouver d'autres textes qui sont beaucoup plus clairs, comme par exemple celui-là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et si on regarde un peu la carte du monde entier, évidemment, il y a toujours des nations qui ne sont pas touchées actuellement par l'évangile, mais qui ont été touchées souvent à l'époque. Par exemple, la Turquie, il y avait une pub de Turkish Airways qui disait « Venez dans le premier pays chrétien ». Aujourd'hui, ce n'est plus un pays chrétien. Mais ça veut dire, si on couvre vraiment sur le globe entier toutes les terres qui étaient déjà touchées par l'évangile, on peut dire ce verset-là il est proche à s'accomplir. Donc l'Antéchrist, on sait ça pour Daniel 11, il fera un contrat avec Israël. Et donc pour ce contrat-là, évidemment, il faut qu'il y aura un État israélien. 1948, la fondation de l'État israélien. Donc ça, c'est déjà une première chose où beaucoup de gens ont dit, hein, il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire du monde. Apocalypse 13, 15, il lui fut donné, donc c'est au faux prophète, donc le Saint-Esprit diabolique, d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Et je me suis dit, si c'était moi, donc Jean, le prophète, qui voit peut-être une télévision, un smartphone ou quelque chose, et je dois le décrire dans un livre, je vais écrire, c'est une image qui parle, une image qui bouge. Donc, technologiquement, il y a des choses qui sont passées. Film 1888, après télévision, ordinateur, internet, smartphone. Donc on voit ces choses-là techniquement commencent à se réaliser. Et ce qui est intéressant, là, à l'époque, il y avait encore un grand saut, c'est-à-dire que le cinéma était vraiment, ça a pris 50 ans, quelque chose, pour devenir vraiment ouvert au grand public. Aujourd'hui, les choses vont très vite. Donc Internet, 1989, déjà en l'année 2000, beaucoup de gens ont eu Internet. Donc le développement technologique va très vite. Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Donc à l'époque, c'était vraiment très futuriste, je crois, parce qu'il y avait encore beaucoup de troc. Les gens avaient encore leur terre. Ah, si je n'ai pas la marque, voilà, je vais chez le voisin, cherche mon blé chez lui. Pas de problème. Aujourd'hui, tout est monopolisé. Donc la nourriture n'est plus faite par nous. Et donc, il y a en 2000. Et évidemment, la marque, si tout le monde a voilà, cette fameuse marque 666 sur la main, ah, tout le monde a le même argent, donc ça ne marche pas. Hein. On peut acheter tout le monde, tout le monde peut acheter autant qu'ils veulent. Donc il faut vraiment avoir un moyen de vraiment acheter avec une marque sur la main. En 2016, j'aime bien regarder les choses un peu technologiques. J'ai vu une nouvelle chose technologique. Donc c'est le RFID, ça ne veut rien dire d'autre que le paiement sans contact, donc qu'on connaisse tous aujourd'hui avec la carte, nos cartes sont échangées par la carte sans contact. Et en 2016, ce sans contact, on peut, avec une petite puce implantée dans la main, donc ce monsieur-là en Suède, il peut payer déjà avec cette marque dans la main, dans le train. Donc c'est accepté en Suède déjà comme mode de paiement. Et dans la vidéo, ce n'est pas une vidéo chrétienne, elle dit probablement dans 10 ans, 15 ans, ça va se réaliser dans l'Europe entière, parce que ça sera tellement simple. Elle était très enthousiaste parce que tout l'argent, les mots de passe, les clés, les badges, etc., tout ça sera dans la main. Et donc, je me suis dit, c'est quand même intéressant cette chose-là, parce que maintenant, ça fait presque 2000 ans que la première fois, une chose qui ressemble vraiment à cette marque de la main droite, et si c'est ça qui va venir en France, qui résistera? C'est une très bonne question, hein, parce que ça sera tellement facile, ça sera comme une adresse mail, tout le monde l'aura. Est-ce qu'on va vraiment résister à ça ou pas? Il faut avoir des convictions très très fermes pour résister à ça. Et je ne vais pas dire à 100% que c'est comme le yoga ou autre chose, je ne vais pas dire à 100% que c'est exactement la marque de la bête, mais ça ressemble tellement qu'il sera dangereux de l'accepter. Et aussi, si on regarde toutes ces choses que j'ai invoquées, il y a aussi beaucoup d'autres choses à voir. Si on regarde 2000 ans, tous ces événements se trouvent comme un tremblement de terre très très proche. Et on peut s'attendre, comme en Californie, au grand tremblement de terre. Donc il y a vraiment des choses, des événements qui se suivent. Pour nous, peut-être 30 ans, c'est longtemps, mais là, on voit, c'est très très rapproché. Et donc, quoi faire? J'ai toujours ça un peu à la fin. Pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là qui semble un peu menaçant aussi, parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous attend. Dans 10, 15, 20 ans, est-ce qu'il y aura peut-être cette marque de la bête? Est-ce que l'Antichrist va venir, etc. Et la Bible, elle est très claire, parce que c'est une génération qui attend vraiment le Christ. Et par rapport à cela, il y a un verset en Matthieu, où Jésus il dit... Ça arrivera déjà dans cette génération. Et beaucoup de gens se sont posé la question, mais voilà, Jésus n'est pas revenu dans cette génération. Mais je crois que c'était partiellement. C'était partiellement pour des choses qu'il disait. Et si on réfléchit, il y a des choses très intéressantes. Donc les gens, à l'époque, ils étaient tellement dans l'attente du Christ qu'ils ont vendu leur champ. Ils ont, ils ont vraiment exercé leur ministère ou partagé l'évangile sans crainte, sans peur. Et finalement, l'église à Jérusalem était très pauvre. Elle a dû avoir du soutien des autres. Et on peut se dire, ah, elles étaient bêtes. Hein. C'est vraiment con de tout vendre. Après, elles n'avaient plus rien. Elles étaient dans la misère. Mais l'histoire, il faut juste aller à l'année 70, donc 40, à peu près 40 ans plus tard que Jésus a prononcé ces paroles-là, que le temple sera détruit. L'Empire romain est arrivé. Et ils ont tout détruit. Et les Israéliens n'avaient plus le droit de vivre dans leur pays. Donc, ils étaient dans la diaspora. Donc, les champs qu'ils ont vendus, coûtait, à l'époque où ils ont vendu les champs, coûtait encore quelque chose. Mais au moment quand l'Empire romain est arrivé, tout le monde a perdu ses biens. Et donc Jésus les a avertis par rapport à ça. Et je crois qu'il nous avertit aussi aujourd'hui avec ses paroles. Donc 1 Jean 2,15 dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles vous feront défaut. 1 Corinthiens. Voici ce que je dis, frères. Le temps est court, désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usent réellement pas, car la figure de ce monde passe. Jean 9, 4, il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et un dernier passage, un troisième ange. Donc ça, c'est par rapport à la marque que je voulais partager. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé son mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant le saint ange et devant l'agneau. » Donc il y a vraiment, la parole est très claire, que n'acceptez pas cette marque-là, si jamais elle arrive. Et ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans, peut-être ça n'arrivera pas, mais je voulais partager ça avec vous au moins une fois, que tout le monde sera averti, que ça peut arriver aussi très bientôt. Et je crois aussi, il y a dans notre monde très capitaliste, moi, tout le monde a ses tentations. Nous, on est en train de voir pour un achat d'une maison. On peut tellement être dans les choses matérielles. Quelqu'un peut être un rêve pour une moto, une voiture, ou repeindre toute la maison, etc. Et ce n'est pas des choses mal. Mais si notre cœur peut tellement rapidement être si concentré dessus, donc je prêche à moi-même, qu'on oublie les choses essentielles. Et Christ nous a dit, usez donc cet argent, usez l'argent injuste. Parce que c'est vrai, c'est injuste que nous sommes très riches par rapport à beaucoup d'autres personnes dans ce monde. Et usez ça pour vous faire des amis. Usez ça pour inviter, pour créer l'amitié, et pour montrer que le chrétien n'est pas conforme à ce monde-là. Qu'on ne soit pas dans cette vision capitaliste, ma maison, ma famille, mon job, etc. Ce n'est pas que ce que Christ nous a confié. Et donc, je vous avertis par rapport à ça, que Christ veut vraiment qu'il soit votre premier amour, que vous ne soyez pas tienne, et que chaque fois quand le monde matériel nous envahit, parce qu'il va le faire avec les médias, avec nos propres désirs aussi, que nous pouvons toujours dire stop à un moment donné et dire je veux mettre vraiment le temps à part pour servir le Seigneur. Et avec ça, je vais conclure avec une prière. Seigneur, je te remercie parce que Tu n'es pas une copie, tu es l'original. Tu es le seul qui peut sauver ce monde. Personne d'autre. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont proclamé, se autoproclamé comme sauveur d'un certain peuple, de certaines nations, mais Seigneur, qui ont trompé tout le monde et qui sont autodétruits à la fin. Et Seigneur, je te remercie parce que tu veux encore sauver aujourd'hui ceux qui sont perdus, ceux qui sont piégés par le Satan, ceux qui croient des mensonges, Seigneur. Et je te prie pour ceux qui sont dans la salle, qui ont une tendance vers le noir, vers le mal, Seigneur, vers les choses que toi tu ne veux pas, qu'ils se prosternent devant toi, qu'ils reconnaissent ton amour pour eux un amour qui ne trompe pas, un amour qui tient jusqu'à la fin. Parce que tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin, tu vas nous accompagner, tu veux être notre Père. Et Seigneur, tu veux aussi nous donner de la sagesse dans les temps à venir, à résister du mal et à faire ce qui est bien. Et je te prie pour cette Église qu'on soit protégé du mensonge du capitalisme, chose du matérialisme, Seigneur, qui nous fait perdre beaucoup de temps. Et Seigneur, qu'on puisse à nouveau se consacrer entièrement à toi. Amen.